Coucou la MIF, micro promo pour vous dire que je repars en tournée de blagues. Je suis en train d'écrire le nouveau spectacle. Je le jouerai en rodage de janvier à mars à Bruxelles, tous les jeudis au Petit Kings. Ensuite, tournée de rodage en France, Marseille, Grenoble, Aix-en-Provence, Reims, Chambéry, La Rochelle et plein d'autres. Puis direction Paris d'octobre à décembre, tous les mercredis et jeudis au Zèbre de Belleville. C'est une salle trop trop belle où il y a une tyrolienne pour arriver sur scène. Est-ce que c'est pour ça que j'ai voulu jouer là-bas ? Vous n'avez aucune preuve. Donc venez, franchement ça va être marrant. Toutes les dates sont sur mon site fannyruet.com. Il y a aussi les liens pour les tickets. Donc voilà, j'ai trop hâte. Des bisous.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
On s'en fout si tu commences jeune. Il y a tellement de gens qui commencent hyper jeunes, surtout dans le classique, et qui en fait vont au conservatoire et qui finissent dégoûtés quand ils ont 18 ans parce qu'on les a pas laissés être des gamins, quoi, tout simplement, tu vois. Je pense que dans la musique, c'est pas quand est-ce que tu commences, c'est la motivation que tu vas avoir.
Cette semaine, dans Les gens qui doutent, je reçois Huelle Lamore, compositrice, arrangeuse et chef d'orchestre franco-américaine. Elle a commencé par étudier la musique aux États-Unis, d'abord pour devenir guitariste de session, avant de switcher vers la composition classique. Et puis elle est rentrée en France et a créé à seulement 24 ans, parce que YOLO, l'Orchestre Orage, qui est un orchestre d'une trentaine de musiciens qui ne se consacrent pas au classique, mais à la musique contemporaine. Ils ont collaboré avec plein de groupes de la scène française actuelle, comme Agar Agar, Grand Blanc, Renard et tout. Petit extrait de ce que ça peut donner en live. Huelle a également travaillé sur les arrangements de certains artistes comme Étienne Dao et elle compose aussi en solo. Elle a sorti son premier EP Tracks l'an dernier. Ça ressemble à ça. Il y a quelques semaines, je suis tombée sur un TED Talk qu'elle a enregistré, qui est dispo sur YouTube, et ça m'a donné vachement envie de discuter avec elle de son parcours, de comment elle a commencé la musique, de son adolescence avec les geeks et les nerds, de comment elle a semi-harcelé un chef d'orchestre pour bosser avec lui, et plot twist, ça a marché, de comment elle a lancé l'Orchestre Orage et du coup de poker qui leur a fait décrocher leur tout premier concert au Théâtre du Châtelet alors qu'ils n'avaient encore aucun musicien dans l'orchestre. On a aussi parlé d'essayer d'être la personne la plus heureuse qu'on connaît, et de carte Yu-Gi-Oh, parce que ça aussi, c'est important. J'espère que ça vous plaira.
Pourquoi t'as fait une crise à 5 ans pour avoir un violon ?
Je sais pas. Non, je sais pas. Je pense que c'est genre crise d'enfant. Ça aurait pu être un violon comme quelque chose d'autre, tu vois. Je sais pas. Je pense que j'aimais bien faire des crises pour plein de choses. Tu vois.
Donc, ouais, mais c'est classe. Moi, je voulais genre une voiture Playmobil de police.
Bah, je sais... ok. Non, je sais pas. Écoute, je sais pas du tout, parce que, a priori, je connaissais personne qui en jouait, et de toute façon, ça a pas duré très longtemps avec cet instrument. J'ai détesté le violon, c'était horrible.
C'est pas le meilleur instrument pour démarrer.
Ah, mais pour un enfant en éveil musical, c'est le pire. Tu vas le dégoûter de la musique. Moi, j'ai eu la chance que ça m'a pas dégoûté de la musique, tu vois. Ça m'a plus donné envie de faire un autre instrument, tu vois, plus qu'autre chose, mais c'est... Le violon, c'est hyper dur. Hein. C'est... Moi, les violonistes, ils m'ont dit, avant de faire des trucs qui soient beaux, il faut au moins mettre 3-4 ans, tu vois.
Mais ça va, un enfant, ça a de la patience.
Bah ouais, ouais, clair. C'est clair. Bah, je pense que pour un enfant, le mieux, c'est faire je sais pas, de la percussion, xylophone, des trucs comme ça. Ma nièce, elle est au saxo. Et le saxo, apparemment, c'est bien parce que tu arrives à faire des trucs assez vite. La guitare, c'est super quand tu veux commencer un instrument, et la basse aussi, parce que... T'arrives très vite à jouer des morceaux, quoi, tu vois. C'est assez cool comme truc.
Puis après, t'as fait de la guitare classique et t'as aussi détesté ?
Ouais. En fait, j'ai fait de la guitare classique parce qu'à la base, je voulais faire du flamenco.
Ok.
C'était ça l'idée. Genre, j'étais fan et je suis fan de flamenco, j'adore ça. Et sauf que au moment où j'ai demandé à faire du flamenco, en fait, il n'y avait pas de enfin c'était ouf hein parce que mes parents vraiment cherchaient, il n'y avait pas de prof de flamenco pour enfants à Paris quoi, tu vois.
C'est plutôt spécifique.
Ouais, c'est hyper maintenant je pense qu'il doit y en avoir, tu vois. Mais c'était juste impossible. Mmh. Donc en fait, j'ai fait des cours de guitare classique et c'est enfin quand l'idée c'est de faire des trucs à la Paco de Lucia, du flamenco, du feu de Dieu et que tu te retrouves à faire des menuets, c'est chaud quoi.
Et du coup, après deux instruments qui te chauffaient pas, t'as quand même continué.
Ouais, parce que après, j'ai commencé à de plus en plus m'intéresser à l'aspect américain de ma culture via la musique.
Et parce mon que père... ton père est américain.
Ouais, c'est ouais. ça. Du sud des États-Unis et mon père m'a fait écouter des trucs hyper chambés, genre Jimi Hendrix, les Allman Brothers, qui est le truc le plus redneck au monde, c'est hyper stylé. Et ouais, c'est des trucs au niveau guitare qui sont chambés. Et en même temps, il y avait toute la vague indé, enfin la nouvelle vague de rock indé qui débarquait, tu vois. Les Strokes, les Arctic Monkeys, et c'est quand t'es guitariste, c'est genre oh, je veux faire ça.
C'est pas bien compliqué, mais c'est vachement stylé.
C'est hyper stylé. Les gens de la scène sont hyper stylés, tu vois. Genre, ils sont iconiques tous d'une certaine manière et ça donne trop envie de te chauffer. Bah, je pense qu'il y a tellement de gens qui ont commencé la guitare à ce moment-là, tu vois, parce que c'était un peu les nouveaux guitar héros. Donc, ouais.
Et du coup, tu mettais des vestes en cuir, tu jouais Reptilia?
La veste en cuir, je l'ai pas eue. Par contre, j'avais Vla les Slim. Putain, on devait avoir l'air tellement con, c'était chaud. Non, j'avais grave les slim, les petites boots. Moi, j'avais pas la veste. Moi, j'avais tu sais le manteau avec le col, le blouson avec le col mouton, tu vois, genre cette espèce de truc, le bombers, tu vois. le chapeau, bien sûr, il fallait avoir. Oh là là. Non mais tu sais c'était cool hein. On se tapait des bars, on avait tous des petits groupes de rock, tu vois. Dans tel lycée il y avait ce groupe, il y avait celui-là, tu vois. Genre en plus j'étais dans un lycée genre mes parents ils m'avaient extirpé de Vitry-sur-Seine pour me mettre dans un collège lycée catho privé, donc c'était tous les bourgeois tu vois qui jouaient du rock. Donc ouais c'était drôle.
C'était comment ton adolescence?
Mon adolescence, ça coïncide justement à quand j'ai quitté Vitry pour aller dans Paris. Même si je vivais toujours à Vitry, mais j'allais juste à l'école dans Paris. C'était cool, mais pendant la moitié de mon adolescence, j'étais genre totalement trop bizarre. j'étais avec la bande des geeks et des nerds. Et à l'époque, c'était pas cool. Tu vois, genre, je jouais aux cartes Yu-Gi-Oh, Magic, je peignais des Warhammer, si tu sais pas ce que c'est les Warhammer.
Si, mais... Ok, ouais. Du coup, j'ai l'image du dragon blanc aux yeux bleus qui vient de me
ressurgir. Ah non, mais cette carte, quand tu l'avais en holographique, c'était le feu.
Ouais. Enfin, moi, j'avais... Attends, c'était quoi? Exodia.
Mm-hmm.
Genre, j'avais la tête.
Ah ouais, mais faut avoir les 5.
Il faut avoir les 5, mais j'étais déjà trop stylée d'avoir la tête, tu vois, à l'école. Ouais. Les gens, étaient...
Mais c'était dur de sortir Exodia en entier quand tu l'avais dans ton deck. Enfin... Bref. donc ouais, enfin, j'étais vachement comme ça pendant longtemps.
Et là, t'avais quel âge? T'avais genre 4?
Non, c'est quand je venais d'arriver en 6ème. En 6ème, t'as quoi? T'as 11, 12 ans.
Okay.
Et puis après, en fait, c'est quand j'ai commencé à vraiment faire de la musique sérieusement que ça a un peu changé, tu vois. Quand j'ai commencé à vraiment jouer de la guitare sérieusement, à avoir des petits groupes, à devenir cool, tu vois. Genre j'ai commencé à vraiment faire que de la musique et rien d'autre. Jusqu'au point où en fait j'ai décidé que j'allais faire ça et que le reste ça me faisait chier en fait. Les Warhammer et les mangas et les cartes ça me fait, j'adore toujours ça aussi tu vois. Mais ouais, j'ai eu toute la période où j'étais genre à fond nerd et tout ça et après j'ai totalement switché vers la musique quoi et c'était cool.
Et tu te sentais moins bizarre? Ou c'était juste les autres qui te trouvaient moins bizarre?
Non, je pense que... En fait, j'ai l'impression que c'était peut-être un contexte où ton originalité devenait une force plutôt qu'une faiblesse quand tu fais de la musique, je trouve. Alors que quand t'es juste original parce que tu peins des petites figurines du début du matin jusqu'au soir, c'est juste vu comme chelou, tu vois. Alors que je pense que quand t'es dans la musique, les gens sont, enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, ouais, c'est un peu, tu reprends le, tu subis plus ton originalité, t'en fais quelque chose, voilà. Un peu salidé. Ouais.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Ouais.
Ok. Et toi, tu te sentais comment quand t'étais, enfin là, genre t'avais tes groupes et tout, t'avais genre confiance en toi et tu savais que t'allais faire ça dans ta vie, genre tu le savais ou tu voulais?
Je le savais ou je le voulais.
Mais tu es.
J'essaie de voir philosophiquement non, quelle non, est la différence genre, entre.
Est-ce que tu savais que ça allait fonctionner parce qu'il n'y avait pas d'autre issue possible, ou est-ce que c'est un truc où tu disais putain j'espère que ça va aller mais je suis pas sûre, tu vois?
Bah, je pense que normal, pendant un moment, j'étais pas sûre, tu vois. Au tout début, parce qu'en fait, pendant très longtemps, j'étais pas genre une guitariste exceptionnelle ou une musicienne exceptionnelle, c'est juste que j'aimais ça, tu vois. Mais je pense que je mettais pas encore le travail qu'il fallait pour vraiment arriver à un autre niveau. Donc à ce moment-là, au tout début, tu vois, j'avais encore des choix de carrière qui s'offraient à moi, quoi. Enfin, même ça, les choix de carrière... Enfin, chouette carrière, guillemets, quoi. Mais des idées de ce que je pouvais faire plus tard. Au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que peut-être la seule constante que j'avais dans ma vie et qui m'avait jamais lâchée, c'était la musique, en fait, tu vois. Et je le voyais presque limite comme un devoir de me donner autant pour la musique que ce qu'elle avait donné pour moi, tu vois. Qu'il fallait, en fait, quoi qu'il arrive, que je fasse de la musique. Et... même si je savais pas exactement ce que j'allais faire, tu vois. En fait, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Je savais juste que je voulais travailler dans la musique. Mais surtout, on me disait tellement qu'il fallait que je fasse quelque chose de plus sérieux, que ça allait pas marcher, que gna gna gna, que ça me donnait encore plus envie de, justement, que ça marche, tu vois. Ça me faisait tellement chier qu'on me dise ça, que j'étais en mode, bah, ok, ben, we will see, tu vois.
Après, t'as fait un bac L et puis t'es partie aux États-Unis.
Ouais.
T'y allais déjà souvent avant ou c'était...
Ouais.
Okay, donc c'était pas un truc genre tout nouveau.
Non, pas du tout. Okay. Bah justement, c'est pour ça que j'avais aucun problème avec ça, c'est parce que je connaissais. Enfin, j'essayais d'aller au moins tous les ans, voire tous les deux ans avec mon père pour visiter la famille, tu vois. Et aussi, ma mère avait énormément d'amis qui vivaient à New York, vu qu'elle travaillait dans la mode. Il y a beaucoup de gens à New York qui étaient des collègues à elle. Donc elle aussi, elle y allait beaucoup pour le travail. Donc je connaissais déjà bien les États-Unis. Par contre, je connaissais pas du tout la côte ouest, qui est là où je suis allée à Los Angeles en premier. Après, j'ai changé de fac pour aller à Boston. Donc la côte ouest, je connaissais pas et c'était vraiment super parce que c'était j'avais plein d'a priori en fait. Je pensais que ça allait être très superficiel et tout, mais en fait t'as tellement de clics et de scènes différentes en Californie que t'as forcément quelque chose qui va te plaire, tu vois. Donc c'était vraiment trop trop cool, j'ai bien aimé.
Et t'es allée là pour être guitariste de session?
Ouais, en fait à la base je voulais aller là-bas et t'as fait la guitare à fond quoi pour devenir guitariste professionnel, vraiment devenir quelqu'un qui genre joue de la guitare quoi. Mais en fait au fur et à mesure je me suis rendu compte que je voulais plus. Mais je savais pas trop encore c'était quoi plus, tu vois. Enfin, je voulais plus... c'est-à-dire que juste m'intéresser à la partie de guitare et tout ça, c'était pas assez, tu vois. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les morceaux dans leur globalité. Donc, ouais.
Et tu jouais déjà d'autres instruments à côté ou c'était...
Ouais, j'ai commencé à jouer de la trompette à ce moment-là.
Et tu t'es senti comment là-bas? Ça a duré combien de temps? 2-3 ans?
2 ans et demi.
Et tu t'es senti comment là-bas?
Ah bah, c'était trop bien. Je suis arrivée, il y avait des gens de c'était pas aussi international que quand je suis allée à Boston, mais il y avait quand même des gens qui venaient d'autres pays, il y avait pas que des Américains, même si les Américains étaient majoritaires. Il y avait des gens qui étaient là, qui étaient spécialistes de la country, des gens qui étaient à fond dans le jazz, il y avait des gens qui étaient à fond dans le métal. T'avais genre plein de styles musicaux différents et tout le monde était genre hyper ouvert d'esprit et c'était genre très positif comme attitude, tu vois. Et vu que c'était une toute petite école, ce qui est rare aux États-Unis, en fait...
C'est quoi une petite école pour les États-Unis?
Je sais pas, là c'était vraiment petit, on était 500, tu vois.
Ah ouais, d'accord.
Enfin, l'autre où je suis allée à Boston, c'était petit aussi, mais on était 5000. C'est pas... tu vois, c'est...
Ouais.
Là c'était vraiment... c'est rikiki. Donc voilà.
Donc, t'as dit, t'es partie à Boston après et t'as eu toute une phase où t'es devenue, tu disais, un rat de bibliothèque. C'est quand t'as un peu switché vers le classique, là? C'est ça?
J'ai pas switché vers le classique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fini à Los Angeles, j'étais hyper jeune, tu vois, encore.
Mais t'es toujours hyper jeune.
Non, mais ouais, non, mais je suis toujours hyper jeune. Mais là, j'étais vraiment très jeune, tu vois. Genre, j'avais pas 21 ans. Je pouvais même pas aller boire dans les bars, tu vois. Genre. Oh. C'est comme ça que je me souviens quel âge j'avais, tu vois. Est-ce que j'allais picoler Non, j'avais pas encore 21 ans, tu vois. Et je sais pas, je savais pas trop encore ce que je voulais faire. Je savais que je savais qu'il fallait que j'étudie encore. Et du coup, je suis allée à Boston. Et quand je suis allée à Boston, en fait, j'en avais marre de jouer de la guitare, tu vois. Je jouais de la guitare depuis hyper longtemps, depuis que j'avais 5 ans, quoi. Donc, j'étais, vas-y, franchement, ça m'intéresse plus, j'en ai marre. Je vais étudier un truc que je connais pas, mais que je pense qui serait utile. Et je me suis dit, bah, je vais faire composition classique, parce que si je fais composition classique, je vais apprendre tellement sur tellement de familles d'instruments que je connais pas à la base. Parce que quand tu viens du rock et du jazz, en fait, tu connais les basses, les guitares, les batteries, un peu les claviers, tu vois, mais c'est tout. Mmh. Et je me suis dit, comme ça, et je commençais à m'intéresser de plus en plus aux musiques de films, aux musiques de grands ensembles, tu vois. Comme par exemple, les Last Shadow Puppets, ils avaient sorti un album où il y avait énormément de strings et j'avais trouvé ça superbe. Et je voulais vraiment, genre, comprendre comment tu faisais ça. Et je me disais qu'il fallait aussi peut-être que je me cultive un peu. Mmh. Et que ça me ferait du bien d'étudier, de me mettre en spé composition classique parce que c'était beaucoup d'histoire. D'ailleurs, c'était un truc qui faisait peur aux gens, c'est pour ça que personne n'y allait. Et voilà.
Est-ce que tu étais genre toute seule en cours?
Non, mais sur 5000, on était 10. Donc je peux te dire que c'était vraiment. Mais vraiment pas le truc le plus sexy de cette école, tu vois.
Si t'es pas là, tout le monde le sait.
Ouais, voilà. Mais direct.
T'as commencé à prendre des cours de direction orchestrale aussi, parce que c'était obligatoire. Mmh. Et puis, t'as voulu choisir ça comme spécialisation. Mmh. Et là, t'as été choisie alors que vous étiez 5 sur 5000 à être choisie. Mmh.
Tu sais, on n'était que 5 sur 5000. Bon, déjà, il faut remettre dans le contexte. Hein. Les gens qui voulaient faire cette spé, on n'était pas beaucoup à la base, tu vois.
Vous étiez juste 5 sur 6 à être pris.
Non, mais, non, mais c'est ça. Non, mais il y avait peut-être une vingtaine de personnes qui essayaient de rentrer dans la spé, mais c'était pas genre... Enfin, tu vois, c'était un truc qui était connu pour être chiant, difficile, qui te rajoutait des heures de cours, alors qu'on en avait déjà beaucoup, tu vois. C'était, enfin, voilà, bref, on s'en fout. Moi, j'étais juste contente parce que... parce que j'avais réussi à convaincre tout le monde que je pouvais le faire. Tu vois. Donc j'étais là, ouais. Donc ouais, c'était cool et c'était super. Ouais, j'étais contente.
C'est quoi la plus grosse différence que t'as ressentie entre les États-Unis en termes d'enseignement justement de la musique vis-à-vis de la France?
Bah, je pourrais pas trop dire parce que j'ai jamais fait d'école de musique en France. Mais de ce que j'en entends, moi j'ai l'impression qu'en France c'est beaucoup en France, aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dans l'éducation positive, j'ai envie de dire. J'ai l'impression qu'en France on se concentre beaucoup sur les défauts et les quand tu joues un morceau sur tout ce que t'as mal fait, tu vois. Mm-hmm. Alors qu'aux États-Unis, on va plus te dire de te concentrer sur tout ce qui est positif dans ce que t'as fait. Et aussi, je sais pas si j'étais restée en France, si j'aurais eu l'opportunité d'étudier la direction orchestrale, par exemple, ou même la musique classique, je pense pas que ça serait arrivé. Parce que vu que j'avais pas fait le conservatoire, je pense que je serais jamais rentrée dans une école, tout simplement. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'on te donne plus une fenêtre d'opportunité qui est un peu plus grande.
T'aurais fait quoi si t'étais restée en France?
Je sais pas. Je préfère pas y penser, ça me fait des crises d'angoisse. Okay.
T'es allée aux Pays-Bas après, parce que t'as harcelé un chef d'orchestre.
Ouais. On peut dire ça, ouais.
Tu l'as convaincu, slash forcé.
Harcelé, tu peux le dire.
Ouais, tu l'as harcelé jusqu'à ce qu'il te laisse être assistante.
Ouais.
D'où t'as eu le culot de faire ça?
Bah, je sais pas, j'avais pas trop le choix, en fait, tu vois. Parce que dans cette catégorie de d'orchestres qui travaillent dans les musiques actuelles, il n'y en a pas 5000.
Ouais, parce que quand t'es revenu des États-Unis, tu voulais un truc qui n'était pas que classique et qui allait
qui n'était pas classique du tout, en fait. Je voulais juste aller directement dans ce qui m'intéressait, tu vois. Ce type d'orchestres qui font que ça et pas du tout de classique. Ouais. Et il y en a, je sais pas combien il y en a en Europe, mais ça doit être 4, 5. Peut-être moins. Enfin, là, j'en ai 3 en tête. Et, j'avais pas le choix. Il fallait absolument que j'aille là-bas, tu vois. C'était genre point barre, tu vois.
Ok.
Genre, c'est tout. Enfin, et je pense que c'est aussi un truc à l'américaine, quoi. C'est qu'ils t'apprennent de pas avoir peur de faire ça, tu vois. J'ai l'impression que, par exemple, en France, on est beaucoup plus pudique et réservé et on a peur de se ridiculiser en faisant certaines choses, alors qu'aux États-Unis, on t'encourage à, tu vois, juste y aller, et si on te dit non, bah, passer à autre chose, tu vois. Quand j'ai envie de faire un truc, je le dis, quoi. Puis après, si ça se fait pas, tant pis, hein.
Okay.
Je pense que la plupart du temps, t'as tout à y gagner, rien à perdre.
Pourquoi t'es revenu en France après tout ça plutôt que d'aller dans des pays anglo-saxons où justement il y a plus d'opportunités peut-être là-dedans?
Bah déjà les États-Unis, après tout le bien que j'en ai dit, je déteste ce pays.
Ok.
Je le dis en étant une fière américaine qui a son passeport. Je trouve que ça me gavait. Et puis au moment où je suis partie, c'était au moment des élections aussi, où le pire des États-Unis ressort à chaque fois. Et
là, puis, on était en 2016.
2016. Ok. Ouais. Et c'était, enfin, je sais pas, genre ça. Fallait absolument que je parte, j'en pouvais plus, genre tous les jours je me levais en me disant quand est-ce que je pars. Et puis la France, ça me manquait, hein, tu vois. Genre, j'ai grandi en France, moi j'adore la France, c'est hyper cool. Je trouve qu'il y a une manière de faire à la française que j'aime bien, et je trouve que la vie est plus douce ici. C'est plus calme, c'est plus tranquille. Et l'Angleterre, ça m'a jamais spécialement attiré pour vivre là-bas. J'aime beaucoup travailler avec les Anglais, mais vivre en Angleterre, c'est pas trop, je sais pas, ça a jamais été un truc qui m'a trop intéressé. Mais ouais, enfin, mais je pense qu'il y a plein de choses qui me manquaient, comme manger un croissant. Non, mais c'est, tu sais quoi, après 7 ans, c'est t'apprends à apprécier ça. Le premier croissant que tu manges, putain, même si c'est la Micheline au relais, tu vois, t'es genre oh my god, what is this. Non mais ouais franchement je voulais revenir en France, et aussi je pense que c'est cool aussi quand t'as eu la chance d'avoir une éducation un peu différente qui est peut-être pas encore proposée en France, de venir et de partager ton expérience et aussi peut-être de faire avancer les choses, parce qu'en France il y a une scène musicale qui est super. Je sais pas, je trouve que c'est bien de revenir au vivre dans le pays que t'aimes, tu vois, et lui donner de l'amour aussi.
Et quand t'es revenu, t'as assez vite créé Orchestre Orage avec avec tes copains.
Mm-hmm.
Et je trouve ça assez marrant la façon dont vous avez fait votre premier concert, qui était juste un gros coup de poker. Genre.
Ouais, c'était ouf.
Oupsie.
Ouais.
Oh, oups. Concert dans 2 mois. Ouais, tu peux raconter l'histoire.
Bah en gros. On s'était retrouvés avec 2 potes à moi, enfin techniquement 3, mais à l'époque on était vraiment que 2. Donc plus moi 3, mais techniquement 4.
Oh là là.
Donc on avait cette idée d'orchestre. Moi j'étais revenue d'Hollande, donc j'avais un peu une idée de comment il fallait qu'on organise le truc à notre échelle, qui était toute petite. On n'avait pas de musicien. Hein.
Mais là, donc là, t'avais envie de quoi? C'est quoi que tu voulais faire?
Là, je voulais faire un orchestre qui était basé sur le modèle du Metropole Orchestre ou du Heritage Orchestra, qui sont des orchestres qui font que des musiques actuelles. Sauf que nous, en fait, on voulait faire que du live et rien d'autre, tu vois. Parce que il y a encore, et surtout au moment où je suis revenue, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs qui tabassaient, quoi. Tu vois, genre, tous les gens qui sont signés chez Cracky, c'est trop bien. Les disques entreprises, il y a des trucs trop bien. Et c'est des trucs qui se prêtent vachement aux cordes aussi. Donc, on n'avait pas de musicien, on n'avait rien, on n'avait que le nom. Bref. Et en gros, on avait réussi à avoir le contact du mec qui fait la sono au Théâtre du Châtelet. Et à la base, on avait rendez-vous avec ce mec pour juste qu'il nous dise quel micro il fallait qu'on loue potentiellement pour des violonistes, enfin les cordistes, quoi. Donc on y va, on parle au mec, blablabla, et il nous dit « Ah, mais vous savez quoi, le directeur est là, vous devriez peut-être aller voir, ça va l'intéresser. » Et on est là « Ok ». Donc on monte en haut, genre le bureau du directeur, c'est au dernier étage du Châtelet, c'est scène de film, un énorme bureau avec une table tout en longueur, le mec est au bout de la table, on s'assoit, on est là « What is happening ?» Et il nous dit « Bah, parlez-moi du projet. » Donc on lui parle, on lui dit « Ouais, on a ce projet, gna gna gna, et tout ça. » Il nous dit « Ah bah, si vous voulez, je peux vous donner une date le mois prochain, tu vois. » Et on est en mode « Ok !» Trop bien. Et donc on sort de là, on a une date, on n'a pas d'orchestre, on n'a pas d'artiste. Mais « Ok !» C'est parti, tu vois. Donc en un mois, on a trouvé l'équipe.
Vous deviez trouver combien de musiciens ?
Je me souviens plus, mais c'était 24, 25, un truc comme ça. Ouais, mais YOLO. Et
fake it till you make it.
Exactement. Et on a contacté Cracky, on a eu la date avec Agar Agar et Renard, qui étaient les deux avec lesquels on voulait le plus jouer d'ailleurs. Mm-hmm. Et ouais, on l'a fait, hein. On a sold out. On a réussi. Donc c'était cool, comme quoi. Et si tu te bouges le cul, rien n'est impossible. Mais c'était stressant, hein. Un mois s'est passé vite.
Est-ce que la pression, ça marche bien chez toi?
Ouais. Ouais.
Maintenant que t'es chef d'orchestre, donc que t'es genre une daronne pour 25 personnes, là, j'ai lu que tu devais genre être méga, méga, méga calme avec eux et tout, enfin, les rassurer et tout, mais que toi, c'était pas du tout comme ça dans la vie.
Bah, ça dépend. Je pense que genre, je suis la fausse force tranquille, tu vois. Genre, les gens, ils ont toujours l'impression que je suis un peu, genre, que je dis rien et que je suis un peu. À deux temps, mais c'est parce qu'à l'intérieur, c'est genre l'ouragan, quoi. C'est genre l'apocalypse tout le temps, tu vois. Enfin, je dirais pas que je suis stressée, mais je suis quelqu'un d'assez anxieuse, tu vois. Genre, je suis toujours assez. Je vois des trucs qui vont pas, ça m'énerve, c'est pas carré, bref, tout ça. Mais c'est vrai qu'avec les autres, dans le contexte du travail, j'essaye d'être très très calme et très zen, tu vois. Souvent, les gens me disent que je les détends. Ouais, mais personne me détend, moi. Vous me stressez tous.
Mais comment t'arrives à donner l'impression que t'es zen alors que tu l'es pas du tout?
Bah, t'as pas le choix. T'es obligé d'avoir l'air zen et de zénifier les gens parce que sinon ça va très mal se passer, quoi. Tu vois, il y a rien de pire que faire un concert où tout le monde est stressé.
En fait, le résumé de ta vie, c'est genre de faire les choses parce que t'as pas le choix. Enfin, c'est tellement obvious.
Mm-hmm.
Ok.
Ouais. Bah, grave, hein. C'est ça, j'ai pas le choix.
Okay.
Faut que j'y arrive.
Putain. Le fait que t'es très tôt, t'étais dans un milieu assez. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'image que j'en ai, un truc assez austère, entre guillemets, dans le sens où tout doit être assez carré en musique. Enfin, surtout quand t'es dans un truc aussi sérieux que les écoles que t'as faites et tout, ça doit être assez carré. Si jeune, est-ce que ça t'as brusqué ou pas du tout? Ou est-ce que c'est un truc dont t'avais besoin ou que t'aimes ou... La question est pas claire. Hein.
Non, mais... non, mais je sais pas, genre c'est carré. Oui, c'est carré, mais c'est carré parce qu'il faut que ça soit carré, quoi. Tu vois, enfin... Tu peux pas faire des arrangements pour 40 personnes et c'est pas carré. Tu vois,
mais t'avais genre 21 ans quand t'avais terminé à Los Angeles.
Ouais,
donc,
mais...
À 21 ans, les gens ici, ils font des études de communication. Tu vois?
Ouais, mais je sais pas. Genre, je me suis juste dit que j'avais la chance d'être dans cette école qui coûte presque 80 000 dollars l'année. Je payais rien parce que j'avais des bourses, tu vois.
Mm-hmm.
J'avais énormément de chance. Mon père, il était genre complètement fauché en France pendant que moi je faisais mes études. Il avait même pas de quoi payer le chauffage en hiver, tu vois. Genre, je pouvais pas me permettre de pas prendre ça très au sérieux, tu vois. C'était juste ça le truc, tu vois. Genre, il fallait absolument que genre je sois à la hauteur de la chance que j'avais. Et j'en étais très consciente de la chance que j'avais. Donc, s'il fallait que ça soit carré, que ça dépasse pas, ça allait être carré, ça allait pas dépasser. C'est tout.
Ok. T'avais pas le choix.
Non, j'avais pas le choix.
Il y a quelqu'un qui m'a demandé de te poser une question que je trouve fort intéressante. C'est, il avait lu dans l'interview d'un musicien qui disait que la précocité dans l'apprentissage était fondamentale pour faire carrière dans la musique. Est-ce que tu trouves que c'est du bullshit?
Bah, oui, je pense. Je pense que c'est du bullshit. Une des meilleures musiciennes que je connaisse, c'est Kiala Ogawa, qui joue dans un groupe qui s'appelle Kodama. Elle a commencé le clavier à 18 ans, je crois, c'est tout ce que je me souviens. Et elle joue, enfin, c'est une brute, quoi, une brutasse totale. Enfin, moi, j'ai commencé tôt la musique, mais attention, hein, j'ai pas pris la musique sérieusement avant d'avoir 16 ans, 15-16 ans. Hein. Avant, pour moi, j'apprenais jamais mes cours de guitare, j'en foutais pas une, tu vois. Mm. Donc, je pense que dans la musique, ce qu'il faut, c'est... On s'en fout si tu commences jeune. Il y a tellement de gens qui commencent hyper jeunes, surtout dans le classique, et qui en fait vont au conservatoire et qui finissent dégoûtés quand ils ont 18 ans parce qu'on les a pas laissés être des gamins, quoi, tout simplement, tu vois. Je pense que dans la musique, c'est pas quand est-ce que tu commences, c'est la motivation que tu vas avoir, tu vois. C'est qu'il faut juste avoir, être vraiment honnêtement intéressé par la musique et vraiment avoir envie d'avoir des résultats, en fait, tu vois. Tu vois, si tu commences le piano, c'est parce que tu veux pouvoir jouer tel truc, tu vois. Si le plus tôt que tu commences, à mon avis, c'est pas vraiment un facteur, quoi, tu vois. Vraiment.
C'est quoi qui t'a attiré, toi, dans la musique? Qu'est-ce que ça...
Tu sais quoi, je ne saurais pas l'expliquer. On me demande souvent cette question et je ne peux pas y répondre. Je sais pas, j'ai aucune idée, tu vois. C'est juste que c'est ça.
Si tu compares par exemple à moi c'est comme ça que je t'ai connue, grâce au book club de chez Louis Média.
Ah ouais.
Tu parlais de littérature, des choses qui t'avaient touché là-dedans, tout ça. En quoi est-ce que cet art-là te fait ressentir des choses différemment de la musique? Pourquoi c'est pas vers ça que t'es allée, tu vois? Pourquoi c'est la musique en particulier?
Peut-être parce que j'ai jamais considéré la musique comme un hobby. Je sais pas. Genre, pour moi, ça a toujours été quelque chose qui était là, tu vois. C'est comme le petit déjeuner. Enfin, a priori, j'essaye de toujours en manger un. Et la musique, ça a toujours été quelque chose qui était là, tu vois. Ça a toujours fait partie de mon quotidien, tu vois. Et je pense que, à cause de ça, j'ai toujours considéré la musique différemment des autres choses, tu vois.
Mmh.
Pour moi, la musique, c'était pas le cinéma, la littérature. Ça, pour moi, c'était des hobbies, des centres d'intérêt, tu vois. Musique, c'était pas un hobby ou un centre d'intérêt, c'est juste quelque chose qui faisait intégralement partie de moi. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Enfin, ça, j'ai jamais dissocié ça de mon quotidien ou de. C'est assez.
T'as réussi à te faire rémunérer pour manger un petit déj. Et ça, c'est beau.
Ouais.
Yes. C'est quoi qui te plaît le plus dans ton travail actuel? Déjà, c'est quoi ton travail actuellement? Parce que tu bosses sur plein de projets en même temps.
Ouais.
c'est quoi, là, genre, tes journées?
Là, c'était énormément de temps en studio pour finir l'album que je fais pour Cassette, que j'ai fini, d'ailleurs.
Yes. Et le principe de cet album-là, c'est...
En fait, Cassette, qui est un label allemand très, très, très bien... commence une nouvelle série d'albums, donc on est 4 ou 5 artistes à chacun avoir notre album, et en fait l'idée c'est de partir d'un répertoire d'un artiste classique et de faire ce que tu veux avec, en gros. Et donc moi j'ai pris Giacomo Puccini, qui faisait de l'opéra 1800 et quelques, et j'ai fait un album un peu italo-disco, indie rock. Très débarras à faire, c'était très drôle. Beaucoup de travail, mais c'était très drôle. Donc ça, c'était le principe, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps depuis la rentrée, mais là, heureusement, on a fini. Et c'est énormément d'écriture, en fait, parce que j'ai ça, j'ai mon album qui sort avec Sony l'année prochaine, qui est fini, mais il faut quand même faire de la réécriture.
Ça, c'est Loop, c'est ça?
Loom.
Loom, pardon.
Loop, c'est cool.
Mais je me suis dit, je pensais que ça va, c'était pour ça, en fait.
Non, loom, ça veut dire,
mais. Je me dis, après track, tu vois, c'est logique.
Non. Ah là là! T'as raison!
Putain, pourquoi j'y ai pas pensé?
Et puis il y a ça, et là, je dois faire des arrangements pour un concert en janvier. En fait, je pense que c'est un peu le bordel pour plein de personnes, parce qu'on a plein de trucs qui devaient être étalés sur une longue période, qui en fait maintenant sont tous, tout à fait finis au même moment. Donc ouais, c'est beaucoup d'écriture et en parallèle, je fais de la recherche avec un département de Sony Musique qui s'appelle Sony Computer Search Labs, Sony CSL, où on développe des outils de production musicale qui utilisent l'intelligence artificielle. Voilà.
Et c'est quoi le principe de ça ? Enfin, c'est quoi le...
Ben, en fait, on utilise des intelligences artificielles et on applique la puissance de l'intelligence artificielle à créer des outils de production. Donc, par exemple, il y en a un des outils qui te crée des sons de drum, snare, kick, hi-hat, ce que tu veux, en partant d'absolument rien, en fait. Tu lui montres un son que t'aimes bien, ça peut être genre ça, et à partir de ce son, il va te générer genre toute une possibilité de ce que ça serait un kick si tu partais de ce son-là, tu vois.
Technique. T'es quoi ? Tu te...
Je l'ai perdu.
Comment... Non, mais tu t'y dis comment vis-à-vis de ça, justement, des évolutions technologiques qui permettent de créer énormément de choses en très peu de temps et qui perd peut-être un peu l'aspect fait soi-même, quoi.
Un truc que je peux te dire, c'est que vu que maintenant je peux parler de l'intelligence artificielle parce que je travaille vraiment dessus pour de vrai, ça prend beaucoup de temps et c'est pas automatique. Donc,
ouais, mais une fois que c'est fait, c'est fait.
Bah
le développement prend beaucoup de temps, puis après c'est...
Non, parce qu'en fait... Non, ça prend vachement de temps, parce qu'en fait, c'est des trucs qui apprennent constamment. Donc en fait, pour avoir le résultat que tu veux, il faut passer 2 heures sur ton ordi pour avoir le son de kick que tu veux, tu vois, juste okay. Ça prend tellement... Après, t'as un résultat, un truc incroyable. Mais je pense que c'est vraiment ancré dans... l'imaginaire collectif que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui fait gagner du temps et remplace l'humain. Pas du tout. Hein. Tu vois, moi, si j'étais pas derrière l'ordi avec les outils, les versions bêta, il y aurait pas un son qui sortirait, tu vois. Genre, c'est vraiment... c'est comme les drum machines, tu vois. Ça a jamais remplacé les batteurs. Hein. C'est juste un autre son. Et en fait, les outils d'intelligence artificielle, ceux sur lesquels je travaille avec Sony, en tout cas, c'est juste des outils, des plugins qui font du sound design, qui font des propositions de choses qui sont intéressantes. C'est une définition sonore qui est pas pour tout le monde, qui est assez particulière, mais ça va jamais remplacer l'humain. Enfin, moi je les teste, je les utilise, mais si tu les utilisais, ça va plus être une galère qu'autre chose, tu vois. Au final, tu vas avoir un truc hyper cool et très intéressant, mais c'est pas ce que les gens pensent, tu vois.
Ça va être méga con comme question, mais comment on a des idées de composition en musique? Parce que moi, j'ai l'habitude de plus parler avec des auteurs, des humoristes et tout. Donc là, t'as des mots, tu notes. En musique, comment ça se passe? Comment ça te vient en tête? Est-ce que, genre, juste des fois, t'entends différentes strates d'un morceau? Est-ce que tu... Je sais pas, tu vois. Pour moi, ça fait aucun sens. Je capte que dalle en composition, en musique et tout.
Bah, je sais pas. Je pense que c'est différent pour tout le monde. Bah j'ai vu que t'as fait Soko et Pomme, je pense que pour elle c'est différent, tu vois. Mais quand j'écris, j'essaie toujours de raconter une histoire, en fait. Je pense vraiment visuellement, tu vois, j'essaie de faire la bande son d'une histoire. C'est des sons qui racontent, parce que je pense que j'ai vachement été marquée par les clips via la musique, et c'est quelque chose que j'ai toujours gardé, en fait. Je vois d'abord le clip imaginaire et la musique qui va dessus, quoi, tu vois. Donc, moi, c'est comme ça que j'écris.
Ok. Sur ton EP, il y a un truc qui m'a trop angoissée.
Ah ouais?
C'est qu'il y a un morceau qui raconte justement quand t'es allée à Kyoto pour la première fois, il me semble.
Ouais.
Et que du coup, t'étais paumée.
Ouais.
Tu parlais pas la langue, t'avais pas de quoi te payer un ticket de métro. Ouais. Et ça, tu vois, c'est une version soft de tous mes cauchemars.
Ah ouais?
Et du coup, ça, en fait, c'est un truc qui m'a marqué dans tous les trucs que j'ai lu sur toi et tout, c'est que t'as toujours l'air à l'aise dans des endroits qui sont pas chez toi. Qu'est-ce que tu trouves là-dedans?
Qu'est-ce que je trouve là-dedans? Je sais pas, je crois que j'ai besoin de m'occuper l'esprit, tu vois.
Mais t'as Netflix?
Oui, j'ai Netflix, mais bon, Netflix, on sait tous qu'il y a que de la merde sur Netflix depuis un moment, mais...
Ça dénonce.
Ouais, je sais pas. Je pense que déjà être statique, ça m'ennuie. Enfin, je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite. Ça a toujours été un énorme problème, tu vois. Je m'ennuie très vite. Donc j'ai toujours besoin de voyager, de faire des trucs, de pas être chez moi, de pas être statique, de toujours avoir des projets. Sinon, mais c'est un enfer, quoi, tu vois. Genre, j'ai besoin de ne pas m'ennuyer. C'est vraiment nécessaire.
Et quand tu dis ne pas t'ennuyer, c'est genre ta capacité de concentration, elle est grande ou est-ce que t'es aussi vite, très vite déconcentré par n'importe quoi?
Bah, je suis pas vite déconcentré, mais je suis très vite ennuyé.
D'accord, ok.
Tu vois, genre. Oui, bah, déjà, genre, j'ai du mal à me concentrer de manière générale, sauf pour certains trucs où genre, ça devient l'inverse, où je me concentre énormément, au point que ça devient assez flippant. Mais ouais, je me fais chier assez vite. Donc, il faut que je trouve des trucs. C'est juste une particularité que j'ai, tu vois, qui fait que ça peut être un peu fatigant au quotidien. Mais ouais, j'ai besoin de tromper mon esprit. Je vais faire croire qu'il ne s'ennuie pas.
Est-ce que t'es devenue la personne la plus heureuse que tu connais?
Bah ouais, enfin je pense, j'espère. Ça serait bien, non? D'être la personne la plus heureuse que l'on connaisse. C'est le but,
ouais,
je pense.
C'est, ouais. Mais j'avais jamais entendu cette phrase. Et du coup, quand j'ai entendu que tu la disais à la fin de ton... J'allais dire Netflix special. Ton TEDx, putain. De ton TEDx. J'ai trouvé ça très joli.
Bah oui, mais je pense que c'est le but, hein. En plus, je pense que maintenant, vu qu'on a les réseaux sociaux et que on voit ce qu'on voit des autres, c'est toujours ce qu'ils veulent qu'on voit. Mm-hmm. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'ils sont la personne la plus malheureuse qu'ils connaissent, tu vois. Parce que tout ce qu'on voit, c'est « Ah, yeah, amazing », tu vois. Mm-hmm. Mais tu sais pas, en fait, ce qui se passe chez les autres, tu vois. Souvent, c'est ceux qui ont l'air d'être le plus heureux qui sont le plus tristes, d'ailleurs, souvent. Et je pense que, ouais... Le but, c'est d'être la personne la plus heureuse que l'on connaisse. C'est tellement triste si on ne l'est pas, en fait, tu vois. Et si les autres le sont, je pense qu'il faut se pousser à être la personne la plus heureuse que l'on connaisse.
Faut pas avoir le choix.
Bah, si, t'as le choix de pas l'être. Mais c'est mieux de l'être, je pense. Même si c'est pas forcément vrai au début, ça le sera forcément au bout d'un moment.
Donc, sur de l'autoconviction, pousser vraiment à son paroxysme, là.
Je pense que c'est de l'autoconviction qui mène à des actions. Tu vois. Et puis, je pense qu'il faut pas être trop dur avec soi-même aussi, tu vois. Je crois que, tu sais, on a l'impression qu'il faut que ça aille vite, qu'il faut toujours être beau, toujours gna gna gna. Tu vois. C'est qu'il y a bien de se lever, de faire sa lessive. Non, mais vraiment, quoi, tu vois, genre, je sais pas.
T'es jamais trop dur avec toi-même?
Si, constamment. C'est pour ça que, justement.
On est donc dans l'autoconviction.
Voilà. Okay. C'est l'hôpital qui est sous de la charité. C'est un peu la définition de moi-même. Non. Si, bien sûr, parfois je le suis, tu vois. Mais en même temps, je le suis par rapport à ma musique plus qu'autre chose, tu vois. Je suis pas du tout dure avec moi-même pour le reste, tu vois. Enfin, je procrastine surtout.
Hein. À part... Tu fais quoi quand tu procrastines?
Je sais pas, mais qu'est-ce que je fais? Je passe 4 heures sur YouTube à regarder j'ai des phases où je regarde des vidéos et j'en regarde 20. J'ai la même chose, tu vois. Genre, à un moment, je regardais de l'ASMR pâtisserie.
Yes.
C'était incroyable. Incroyable. Mais j'ai trouvé des chaînes. Je te jure, tu fermes les yeux, tu mets tes écouteurs, tu dors au bout de 30 minutes, quoi. Des mecs qui font des plats, des tartes au chocolat sans bruit avec des micros de ouf. Incroyable. Donc, ouais, enfin, à part sur tout ce qui est,
C'est quand que tu vas sampler ça?
De l'ASMR?
Ouais.
Bah, moi, j'adorerais faire un album d'ASMR, hein, genre. Non, mais.
Do it!
Mais pour faire de l'ASMR.
T'as pas le choix!
Non, mais pour faire de l'ASMR, parce que je me suis renseignée, faut des micros qui coûtent tellement cher. Les youtubeurs qui ont 16 millions de vues sur les tartes au chocolat, ils ont des micros à je sais pas combien, hein, c'est un setup, hein. Vraiment.
Allez sur Patreon.
Ouais. Go on my Patreon.
Donate. Oui, donc c'est quoi le truc qui te rend la plus heureuse dans ton travail actuellement? Ce que t'aimes le plus?
Actuellement, ce que j'aime le plus, c'est de travailler avec des gens avec qui j'ai toujours voulu travailler. Ça, je suis très contente de ça. Là, récemment, j'ai bossé avec un mec qui s'appelle Alphamist, qui vit à Londres, et enfin, je suis j'essayais d'être hyper pro au téléphone et par Zoom, mais c'était très dur, tu vois. Ben, oh yeah, Alpha, sure, I'll do this for you. Et derrière, j'étais là, ah! Donc ouais, ou de, bah là je fais la musique d'un film pour Aïssa Mega et enfin j'ai toujours voulu la rencontrer parce que je trouve qu'elle est vraiment super cool. Ouais, franchement ça fait plaisir et surtout ce qui me fait plaisir c'est d'avoir des deux disques qui sortent sur des bons labels quoi, tu vois, et des gens qui ont vraiment confiance parce que bon. Quand je suis rentrée, j'ai fait beaucoup de direction orchestrale, donc les gens étaient un peu en mode « elle, c'est une chef d'orchestre !» alors que j'étais là « non, je suis chef d'orchestre parce que voilà, ça m'a fait kiffer d'être chef d'orchestre et de faire que ça pendant un an et demi. » Mais à la base, j'écris de la musique, quoi. C'est surtout ça que je fais, en fait. Donc là, ça fait plaisir que enfin, je vais faire que ça pendant un moment, je pense. Et aussi, bah, un truc qui fait plaisir, mais ça fait plaisir à tous les musiciens, c'est quand tu commences enfin à gagner décemment ta vie, quoi. Enfin, bien sûr, tu fais pas de la musique pour gagner de l'argent, mais c'est quand même un truc qui fait plaisir, quoi, au bout d'un moment. Quand t'es plus à genre être à 10 euros près, tu vois, à chaque fois, je ne suis pas riche. Encore. Mais ça fait plaisir de genre, de plus être constamment stressé, quoi.
Il y a un truc qui m'a fait marrer que t'as dit dans le book club, c'est que t'aimes bien les livres où il y a des personnages qui assez lentement perdent la raison.
Ouais.
Pourquoi ?
Parce que je trouve ça hyper intéressant quand c'est écrit. Je trouve ça hyper intéressant de. Je sais pas, ça m'a toujours. Je pense que tout le monde a genre une fascination un peu what the fuck, tu vois. Et genre, moi, j'ai toujours trouvé ça un peu super cool. Par exemple, dans le Orla, quand tu. Enfin, je sais pas si tu vois, genre, c'est un livre de Maupassant avec un mec qui, tous les jours, c'est un peu son journal intime. Et il perd la boule de plus en plus. Et tu vois, genre, chaque jour, qu'il y a des trucs qui commencent à être un peu... Tu vois, jusqu'à ce que tu sois en mode « Ok, ce mec est totalement starve », tu vois. Et ouais, c'est un process qui m'a toujours vachement intéressé. Je trouve ça cool quand c'est narré par... Je saurais pas l'expliquer. Je trouvais ça très intéressant. Ou il y a un autre livre, c'est pas vraiment la folie, mais l'arrivisme pousse à son paroxysme qui en devient presque de la folie. Un autre livre qui s'appelle Le Rouge et Noir, qui est horrible, qui fait 800 pages, mais je l'ai relu récemment, je me suis rendu compte qu'il n'est pas si horrible que ça. Où le mec devient de plus en plus un connard avec son entourage.
C'est Stendhal, ça ou...
Ouais. Tellement long. Faut le lire en diagonale, c'est le secret. Et parfois, il faut dire la vérité. Hein, et ouais, c'est hyper intéressant de voir qu'au travers de plusieurs situations qui lui arrivent, il devient de plus en plus un énorme fils de pute, quoi, tu vois. Et ça, je trouve ça intéressant.
T'écoutes quoi en ce moment ?
J'ai fait une grosse phase, le dernier album d'Apollo Noir, qui est un producteur, c'est trop cool, qui s'appelle Weapons, et le dernier album de Yale, c'est hyper cool. Et un autre mec qui s'appelle Alban Claudin, qui vient de sortir un album aussi, qui est très cool.
C'est aussi en français ?
Ouais. À la base, il joue du clavier avec Clara Luciani, mais il fait aussi du piano en mode...
Ah oui, celui-là avec ses longs cheveux ?
Ouais, ouais, on dirait un anglais. Genre, il a la coupe de Liam Gallagher. Il a sorti un album au piano instrumental hyper beau. Mais ouais, le dernier album de Yale, je l'ai trouvé hyper cool. Les chansons, elles sont drôles et c'est bien produit et c'est cool. Et l'album d'Apollo Noir était vachement bien. J'ai vraiment beaucoup kiffé. Enfin, je le connais déjà et j'aimais bien ce qu'il faisait. Mais là, ça, franchement, j'ai trouvé ça super cool.
Et c'est quoi vraiment la collaboration que tu aimerais faire dans le futur ? Le truc vraiment où tu te dis, mais le jour où j'ai fait ça, c'est bon, I'm done.
Il y a plein de trucs que j'aimerais faire, mais je pense qu'il n'y en a aucun qui est au-dessus d'un autre, tu vois. Et j'ai plein de...
Tu les aimes tous comme tes enfants ?
Non, C'est bizarre. Non.
Weird.
Non, mais genre, il y a des musiques de films que j'aimerais faire. J'adorerais, enfin... Ouais, j'ai des rêves, tu vois, j'aimerais trop faire un truc avec Florence Welch. Je suis genre... Je suis tellement fan de Florence Welch. C'est genre... Elle chante tellement bien. Tout ce qu'elle fait, c'est trop cool. Et puis, j'aime bien parce qu'elle est dans son... Elle fait son truc, quoi.
Ouais, donc Florence and the Machine.
Ouais.
Ceux qui ne...
Et je suis hyper fan d'Adèle, hein, pour ceux qui connaissent pas. Mais je suis en karaoké. Je suis une tueuse, hein.
Ah ouais ?
Ah non, mais c'est...
Vas-y.
Non.
Je te mets un petit YouTube.
Non, ma copine, elle me dit que je chante super mal, que je dois surtout pas chanter, donc je ferai pas tuer. Non, genre, c'est vrai que je ne chante pas très bien. Mais ouais, je suis hyper fan d'Adèle. Si un jour j'ai la chance de faire des arrangements pour Adèle ou un truc comme ça, je serais trop contente, tu vois. Ça, ça, Non, vraiment, ça
elle
ferait
est avec
plaisir.
Nous ce soir.
Non, arrête. Franchement, je pass out direct. Hein, genre,
ah, mais j'espère bien, c'est la moindre des choses quand Adèle t'appelle.
Ah non, mais en plus, ça a l'air d'être super cool. Au-delà de ça, quoi. Ça a vraiment ça a l'air d'être quelqu'un de bien. J'espère qu'il y a des rumeurs comme quoi elle sort peut-être avec Chris Brown. J'espère que c'est pas vrai.
Merci beaucoup. Huel Lamor sortira un album concept sur le label Cassette cette année et puis son premier album solo Loom chez Sony dans la foulée. Elle travaille également sur plein de collaborations, notamment la musique du film Marcher sur l'eau d'Aïssa Maïga. Vous pouvez suivre tout ça sur ses réseaux sociaux, j'ai tout noté dans la description et j'y mets également tous les liens pour vous abonner à ce podcast via iTunes, YouTube, Spotify, Deezer, tout ça. Et si vous voulez être tenu au courant de la suite des épisodes, vous pouvez aussi me suivre moi sur Facebook, Twitter, Instagram en tapant Fanny Ruet. Bisous. Et j'ai oublié de vous dire que cet épisode avait été mixé par le fabuleux, l'incroyable, le très musclé Maxime Moitieu.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.